Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone 100% consacré aux Phoenix Suns. Les Phoenix Suns qui ont mal à la tête, hein, leurs supporters aussi ce matin, là, après. Ce matin, ça. Ce matin, aux États-Unis, justement. On va y revenir. Mais effectivement, c'est Phoenix qui vient d'enchaîner deux défaites vraiment très, très dures à avaler, on va dire, contre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, numéro 1 de draft, qui a fait donc son premier match référence, on peut le dire, hein, là, dans la nuit de jeudi à vendredi, face aux Suns, avec une ligne de stats assez impressionnante, une impression visuelle aussi vraiment. Vraiment énorme. On va en parler de toute façon dans cet épisode. Pour m'accompagner pour ce nouveau numéro de Valley Hoop, bah j'ai comme d'habitude avec moi Greg. Comment ça va, Greg?
Ça va, écoute, si on relativise à la vie de manière générale, ça va.
C'est ça.
On est en pleine santé à peu près, tout va bien. On essaie de pas trop penser, enfin on essaie de garder à l'esprit que ça n'est que le cinquième match de la saison, quelque chose comme ça. Qu'on est loin des 82 et qu'on est loin du mois de... Enfin des matchs de playoffs qui vont se disputer en fin de saison en mai et juin. Donc voilà, on va essayer de relativiser dans ce podcast.
C'est ça, relativiser, garder son calme, mais voilà, pas trop s'énerver, parce qu'encore une fois, voilà, on est encore un peu à chaud là, de ces deux défaites, donc forcément on l'a un peu mauvaise. Mais comme tu le dis, Greg, c'est une longue saison et c'est seulement le début, donc on va rester mesuré, évidemment. On est ravi aussi dans ce numéro de Valley Hoop d'avoir un invité qui est un témoin de première main, si j'ose dire. C'est Benjamin Monbège, donc que certains connaissent sans doute parmi nos auditeurs, qui est un journaliste français qui bosse notamment pour Rivers Basket Session et qui a fait le choix de cette année de faire le grand saut d'aller à San Antonio, d'aller s'installer à San Antonio pour vivre sur place, on va dire, les grands débuts de Victor Wembanyama en NBA, pour suivre tout ça, couvrir tout ça. Benjamin, ravi de t'avoir, comment ça va? Et puis bah voilà, est-ce que tu peux un peu parler un peu de ce que tu fais depuis que tu es à San Antonio, là, depuis quelques mois maintenant, depuis que tu es arrivé? Ça fait quoi, un mois, 2 mois?
Ça fait à peu près, je crois que ça fait quasiment un mois. Le mois anniversaire est passé il y a quelques jours. Déjà, plaisir pour moi d'être avec vous, mes petits soleils, ça fait plaisir. Et ouais, c'est vrai, enfin, pour me présenter un petit peu, du coup, moi je suis journaliste. Effectivement, je suis parti m'installer à Saint-Antoine, comme on dit ici, parce que soyons fous. Et je bosse surtout pour Rivers et Basket Session, donc le site d'actu qui est lié. Et je bosse aussi à droite à gauche pour le D-Sport, The Free Agent. J'ai des projets en cours avec le crossover. Voilà, je fais un petit peu de tout et dans l'idée, surtout ce que je fais, c'est que je suis la saison des Spurs, je suis au maximum Victor Wembanyama et puis c'est vrai que moi, je me suis réveillé de meilleure humeur que vous, j'imagine.
Oui, forcément, de ton côté, c'était plus riant comme soir. Et puis c'est vrai que bah, c'était des moments importants déjà dans le début de carrière de Victor, donc ça va être assez intéressant. Selon certaines sources, d'ailleurs, Saint-Antoine pourrait bientôt être rebaptisé Saint-Victor, hein, on verra. Sans pour parler, mais voilà. En tout cas, ça commence plutôt bien, effectivement, pour Wembanyama dans ses grands débuts là, avec cette franchise texane. Et effectivement, bah, aux dépens clairement de Phoenix, hein, on va revenir sur ces deux matchs parce que ce soit du côté donc de Victor et des Spurs, ou évidemment du côté des Suns, qui nous intéresse en priorité dans ce podcast, il y a pas mal de choses à dire, hein, même si ça reste des matchs de début de saison, et voilà, on va surtout pas essayer de tirer de conclusions. On l'a fait la semaine dernière dans l'épisode des conclusions hâtives, donc voilà, on va rester là plus dans la mesure. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on a pu observer, donc c'est super d'être avec toi, Benjamin, parce que tu as vu ça vraiment de près, donc on va pouvoir discuter de tout ça. Messieurs, bah écoutez, sans plus tarder, on va se lancer pour ce nouveau numéro de Valley Hoop. Back with the Remus, these boys are my sons like Phoenix, my city. See the shots that I took, wet like I'm booked. The Phoenix Suns select DeAndre Ayton. The sun came out. I went about to drop top. On est donc dans Valley Hoop avec Benjamin Moubèche, le Frenchie, l'autre Frenchie de San Antonio, pour discuter un peu de ce qu'on a vu là sur ces deux matchs des Spurs à Phoenix, mardi et jeudi. Donc deux défaites, hein, des Suns, deux défaites au scénario complètement différent. Défaite d'un point sur le match de mardi 114-115, un match où Phoenix aura mené absolument toute la rencontre sauf les 7 dernières secondes, hein, puisque bah, on va pas revenir sur... enfin, on reviendra forcément dans cet épisode, mais on va pas vous refaire le film du match, mais effectivement il y a cette dernière, enfin, comment dire, quel est le bon terme? Le choke. On va rester, voilà, on va rester classique. C'est un bon gros choke, on va dire, des Suns, notamment de Kevin Durant sur cette fin de match. Phoenix a encore donc 3 points d'avance à 10 secondes de la fin. Puis Kevin Durant oublie de box out. Wembanyama récupère un bon marque directement. Et sur la remise en jeu, KD qui récupère le ballon est directement pris à deux, coincé dans un coin par deux joueurs, voire trois des Spurs, Trey Jones et Keldon Johnson en tête, et finit par perdre le ballon qui va derrière permettre aux Spurs de s'imposer. Donc vraiment, bah, une défaite surprise, on va dire, hein, dans un match que les Suns avaient vraiment dominé globalement, de la tête et des épaules, donc malgré leur rotation toujours un peu réduite par les absences de Booker et Bill. Devin Booker qui est revenu donc pour le match de la nuit dernière, donc de jeudi à vendredi. Match qui sonnait un peu comme une revanche. On attendait que les Suns se montrent un autre visage. Ils ont montré un autre visage que sur le match précédent, mais pas du tout celui qu'on attendait, quoi. En fait, un début de match complètement catastrophique. Je crois que c'était 39-20 à la fin du premier quart-temps. Je sais plus exactement à la mi-temps, mais beaucoup d'avance encore pour les Spurs. Donc vraiment un début de rencontre qui te plombe complètement. Et derrière, bah, tu cours après le score et tu arrives quand même à revenir à hauteur dans le quatrième quart-temps. Je crois que ça revient jusqu'à 116-116. Et puis après, il y a un money time qui est complètement foiré à nouveau par les Suns. À l'image du début de match, à l'image de la fin de match précédente, à l'image bah, de ce qu'on a déjà vu un peu trop souvent là, dans ce début de saison en 5 matchs. Parfois, Phoenix sort complètement de la rencontre, n'arrive plus à rien des deux côtés du terrain, hein. Et c'est vraiment ce qu'on a vu sur cette fin de match à nouveau, avec de l'autre côté un Victor Wembanyama qui a take over, comme on dit, et qui finit donc avec 38 points. Et c'est son plus gros, évidemment, carton au scoring depuis son arrivée en NBA. Et notamment, donc, je sais plus combien de points dans le dernier carton, je vais regarder ça tout de suite. 10 points dans le dernier carton, tout simplement, pour finir les Suns et pour aller décrocher cette deuxième victoire. On va donner la parole évidemment à notre invité en priorité. Toi Benjamin, globalement, comment t'as vécu ces deux matchs? Est-ce que t'étais à San Antonio du coup quand tu les as vus ou tu t'es déplacé à Phoenix? Comment t'as vu ces matchs-là et comment tu les as vécus, on va dire?
Alors j'aurais adoré aller à Phoenix, et j'avoue c'était dans mes plans à la base, mais pour plein de raisons, ça s'est pas fait. Donc je les ai regardés depuis ma chambre à San Antonio, voilà un peu, j'ai envie de dire un peu comme un débile. Mais ouais, concrètement, c'est vrai que le premier, pour moi, c'était le scénario qui était au départ peu surprenant, où les Suns, en fait, sont clairement la meilleure équipe, où on voit que Wembanyama, les Spurs sont juste pas prêts, en fait, pour affronter Kevin Durant, pour affronter une équipe qui est composée de vétérans. Même Eric Gordon qui leur en met plein la vue. Donc en fait, il y a ce côté où tout de suite, l'inexpérience, voilà, pèse beaucoup trop pour eux. Mais après, du coup, il y a cette fin de match en fait qui est assez exceptionnelle, cette remontée que presque on n'explique pas finalement parce que. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Du côté des Suns, du côté des Spurs, faut se rappeler qu'au moment où le match se plie, Devin Vassell rate son 3 points. Wembanyama met la claquette, il reste une seconde et limite à ce moment-là, moi je vois ça, je me dis c'est limite décevant en fait parce que il vient de marquer 2 points, ils ont besoin de 3 pour égaliser en une seconde. Comment est-ce qu'ils vont faire? Et puis sachant que Kevin Durant va récupérer le ballon et aller chercher des lancers francs normalement, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce qui se passe, la plupart des gens l'ont vu, Keldon Johnson qui va récupérer le ballon comme tu l'as décrit, puis le panier et du coup la victoire. Et ça, à la limite, c'est pas si surprenant que ça parce que le scénario est tellement miraculeux, what the fuck, etc., que je me suis dit, ah, c'est top, mais c'est pas choquant. Il y aura des victoires comme ça dans la saison. Ce qui s'est passé, par contre, dans la nuit dernière, ça m'a un peu plus surpris parce que c'est vrai que l'entame de match, qui n'était pas forcément la spécialité des Spurs, qui ont commencé le tout premier quart-temps de la saison de manière à peu près similaire, mais qui depuis ont un certain ralenti en première mi-temps, m'a plus surpris. Parce que quand on regarde un petit peu le déroulé du match, en fait, le seul quart-temps que les Spurs gagnent, c'est le premier. Tous les autres, ils vont du côté des Suns. Et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, tu prends une avance, en fait, tu prends ces 20 points d'avance qui font tout le match. Et ça, c'est une claque d'entrée de jeu que j'attendais surtout pas de la part des Spurs, surtout pas de la part d'une équipe aussi inexpérimentée et aussi désorganisée depuis le début. Et là, il s'est passé quelque chose, tout s'est mis à cliquer. Alors, on va parler beaucoup de Wembanyama parce que énorme match, 38 points. Mais en première mi-temps, avant qu'il se blesse, Devin Vassell exceptionnel. Trey Jones et Jeremy Swann ont parfaitement fait le travail. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de doute, 116-116 au moment du 3 points de Bates Diop. Mais Wembanyama a marqué ses 10 points dans le dernier quart-temps en 4 minutes. Et pendant ce temps, les Suns en ont marqué 5. À 1 sur 10 au tir. Donc c'est vrai que, pareil, le côté clutch de Wembanyama était encore là. Donc là, par contre, ce match-là, je l'ai vécu et je me suis dit, enfin, c'est peut-être le match référence de saison. C'est une possibilité parce que il reste encore tellement de matchs que je peux pas encore dire c'est le match de référence de la saison, mais je pense qu'il sera dans les candidats à la fin de la saison. Donc bah, juste, j'étais sur le cul, dans mon lit, du coup, et en train de profiter comme tout le monde, hein, finalement.
Ouais, nous on n'a pas trop profité de ce moment, je t'avouerai, hein, on était plus.
Non, bien sûr, mais bon.
Non, bien sûr, en plus, vraiment, si on doit justement sortir un peu du côté supporterisme, c'est évidemment impressionnant à voir parce que voilà, hein, ça fait longtemps qu'on attend ce freak français et de voir ce que ça peut donner en fait en NBA, quoi. Et là, voilà, on a eu sur ce match un premier aperçu vraiment de la folie que ça peut être Wembanyama. En confiance et en réussite des deux côtés du terrain. On avait vu depuis le début de saison qu'il était quand même déjà plutôt performant défensivement. C'était encore un peu timide sur le côté offensif, sauf comme tu l'as dit, Benjamin, dans les quatrièmes quart-temps, où pour l'instant c'était assez intéressant déjà. Donc ouais, il y a cette espèce de montée en puissance, cette espèce d'acte fondateur aussi, hein, de montrer sur ce premier double affrontement avec son idole absolu, Kevin Durant, que bah il est au niveau, il est là, il le regarde dans les yeux, bah, même d'un peu de haut, hein, vu la différence de taille, évidemment.
Bah là, hier en plus, même dans le jeu, hein, j'ai envie de dire, je pense que le meilleur joueur sur le terrain, c'était Victor Wembanyama.
Il semble, alors ouais, effectivement, pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, moi j'ai pas encore revu la fin, enfin la deuxième mi-temps, j'ai pas encore vu la deuxième mi-temps du match, parce que je suis allé me coucher de rage à la mi-temps juste avant, voilà, et que je la regarderai plus tard quand je serai un peu calmé, on va dire, par rapport à tout ça. Mais de ce que j'ai compris, Booker, qui avait complètement foiré son début de match, a quand même vraiment redressé le niveau après, mais pourtant, effectivement, malgré ça, malgré un KD, on va dire à peu près égal à lui-même, c'est bien Victor qui a brillé plus que les autres sur ce match-là. Donc ouais, comme tu dis, il y a vraiment un côté marquant, et les Américains en plus adorent ça. Donc je pense que sur le côté moment charnière dans sa carrière, oui, il y a vraiment un truc qui s'est passé hier soir. Bien sûr, la suite devra nous confirmer tout ça. Toi, Greg, comment t'as vécu ce match-là, enfin ces deux matchs-là? Bon, inutile de préciser que forcément c'est mal, mais voilà, plus en détail et peut-être plus de manière plus analytique. Comment
Ben,
tu
ouais,
juges ce
on va.
match?
Enfin, je vais éviter de sombrer dans le négatif parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Il faut. Enfin, j'essaie de me rappeler qu'on n'est qu'à 5 matchs et que Frank Vogel, surtout, a peut-être besoin d'une vingtaine de matchs pour essayer toutes les idées qu'il a en tête. Et il y en a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont échouer. Et je crois qu'on les a vus sur ces deux premiers matchs. On en a vu notamment aussi face au match contre les Lakers qu'on a commenté et sur lequel j'ai fait un thread, donc cette erreur d'aligner trois petits alors que les Lakers avaient Wood, AD et LeBron sur le terrain. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a eu quelques problèmes dans le coaching contre les Spurs, notamment sur l'intensité en attaque demandée aux joueurs et le type de jeu et le type d'attaque à envoyer face notamment aux séquences défensives en zone des Spurs qui ont vraiment beaucoup gêné les Suns. Et en fait, on a vu que finalement, le seul joueur qui arrivait à trouver la solution, c'était sur les deux matchs, hein, c'était Grayson Allen, qui, je me souviens notamment du premier match contre les Spurs, attaque la zone comme il le faut, c'est-à-dire par la ligne de fond. En tout cas, d'une des deux façons qui fonctionnent relativement bien face à la zone, c'est par la ligne de fond pour ensuite faire des kick-out assez précieux. Ça nous a permis de tenir un petit peu jusqu'à ce qu'on se fasse avoir dans le money time. Enfin, jusqu'à ce qu'on fasse avoir par Vogel, encore une fois, mais ça c'est un autre sujet parce qu'il ne prend pas le temps mort, etc. Et il essaye un 5 sans gros rebondeur physique, alors que Wembanyama va prendre ce rebond offensif pour nous planter ces deux points-là qui font revenir les Spurs et les laisse espérer. Et puis sur le match précédent, là, le match de cette nuit, on a un peu le même truc où on a. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que, mis à part Booker, j'ai pas trouvé Kevin Durant phénoménal, mis à part du point de vue de l'adresse. Et encore, il faut que ça s'analyse de plus près. Quand on parle de Kevin Durant, on part du principe qu'il est adroit et que c'est toujours fantastique de le voir rentrer 28 points en 15 shoots. Mais en vrai, si on regarde vraiment bien, il fait 2 sur 4 dans le quatrième quart-temps et 4 shoots pour Kevin Durant dans le quatrième quart-temps, alors qu'on est censé produire l'effort pour revenir, c'est quand même un peu difficile. Il y a quand même encore et toujours des problèmes de turnover depuis le début de la saison chez les Suns, c'est particulièrement, j'ai trouvé, sur Kevin Durant. Et puis ouais, sur ce match, il y en a encore un pour moi qui plane au-dessus de tous les autres, c'est Grayson Allen, qui est finalement le seul dont l'intensité est égale de A à Z. et qui apporte ce facteur grinta qu'on retrouve chez les Spurs sur les deux matchs. Et je trouve que c'est là que les Spurs nous ont battus à plate couture. En fait, ils n'ont jamais abandonné leur plan de jeu. On voit sur le match, sur le premier match contre les Spurs, c'est Benjamin de QI Basket qui a très bien analysé ça. Il montre que la défense des Spurs est basée sur des aides et des prises à deux assez séquentielles et répétitives pendant les possessions des Suns. Ça ne marche pas pendant trois quarts temps. Et puis soudainement, parce que les Spurs continuent d'y croire et parce qu'ils continuent d'y mettre davantage d'intensité possession après possession, et ben ça clique. Et en fait, on se retrouve complètement muselé dans ce quatrième quart temps où je crois qu'on met que 11 points,
Mais
un
c'est
truc
ça,
comme
on
ça.
se plante.
Ce qui est fou, vraiment fou, quoi. Et c'est un peu pareil sur le match précédent. Il y a un manque d'intensité que je trouve vraiment dommage. Il y a des joueurs hein, qui planent au-dessus des autres. Eubanks, Watanabe, Grayson Allen. Alors peut-être pas forcément toujours en réussite. Eubanks en défense notamment n'a pas la réussite qui est équivalente en tout cas proportionnelle aux efforts qu'il fournit. Watanabe en attaque n'a pas non plus la réussite sur le match précédent à la hauteur des efforts qu'il fournit. Et Grayson Allen, lui, par contre, moi franchement, enfin, on va y revenir un peu plus tard, hein, j'aimerais bien parler de Grayson Allen depuis le début de saison dans ce pod et avoir l'avis de Benjamin. Mais je trouve que voilà, il fournit. Par contre, Yusuf Nurkic, tu mets une boîte de thon dans la raquette, c'est la même. C'est exactement la même. C'est la même chose. C'est la même chose. Je mets le jus dans la gamelle de ma chienne. Je mets la boîte de thon au milieu de la raquette. Il se passe la même chose qu'avec Yusuf Nurkic en attaque et en défense. La défense encore, ok. On sait qu'il va falloir du drop au max pour Yusuf Nurkic pour être à peu près correct en défense. Vogel ne met pas du drop à chaque possession, d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Mais alors en attaque, faute sur faute, il est en foul trouble quasiment sur les 5 matchs débutés depuis le début de la saison. C'est quand même relativement problématique. Il va falloir interroger, parce qu'on ne peut pas toujours interroger l'arbitrage à un moment donné, il va falloir quand même interroger la manière dont Yusuf Nurkic se projette dans l'intensité de ses captations de balles et de son mouvement sur le terrain. Il y a beaucoup trop de fautes provoquées, quoi.
Non,
Beaucoup de fautes encaissées, pardon.
donc c'est pas ouais, effectivement
Et puis enfin, Eric Gordon, je suis désolé, mais on dirait une serpillière. Il ne sert à rien du tout. À rien du tout. Dans le quatrième carton sur le premier match contre les Spurs, c'est vraiment, il est insipide. On dirait de l'aspartame fait joueur NBA. Ça ne sert à rien. Moi, j'étais vraiment choqué parce que la chose dont on avait envie, la chose que moi je cherchais personnellement en tant que fan et en tant qu'observateur de ces Phoenix Suns, c'était d'avoir une équipe, ça fait 2 ans que je le dis en plus, c'était d'avoir une équipe avec de la grinta et avec un goût de l'effort. Infini. Vogel avait mentionné cette volonté-là d'être une équipe qui joue dur, d'avoir du hustle et un goût de l'effort infini dans toutes les conférences de presse où il s'est exprimé. À chaque entraînement, c'est ce qu'il répète. Il faut qu'on ait le goût de l'effort, il faut qu'on soit nasty, il faut qu'on envoie du pâté, etc., etc. On n'entend que ça. On n'entend que ça. Ok, mais ça fait 3 matchs qu'on ne le voit pas. Ça fait 3 matchs qu'on ne le voit pas. Donc ça fait 3 matchs où ça commence à devenir. Non pas problématique parce qu'on n'est qu'à 5 matchs, mais en tout cas, ça devient une perspective négative dans l'évolution des Suns, qu'il va falloir que Vogel et son équipe, de coach et de joueur, corrigent le plus vite possible.
Non, non,
J'avais promis d'être pas être négatif, c'est
un
raté. C'est raté. On dirait
Non,
les
mais...
Belges à la Coupe du Monde de foot.
Non, mais encore une fois, c'est normal d'avoir le seum après ces matchs-là. Et effectivement, sans qu'il y ait vraiment d'urgence, et le bilan pour l'instant fait qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. Effectivement, il y a des éléments qu'on a vus là, notamment sur ces 2 derniers matchs, qui sont problématiques, qui sont pas rassurants et qui posent question par rapport à la construction de l'effectif et par rapport à ce qui est mis en place là pour l'instant. Moi, globalement, effectivement, il y a deux éléments qui sont à retenir, et tu vas me dire après, Benjamin, si tu es d'accord avec tout ça et comment tu juges un peu le début de saison des Suns. S'il y a deux éléments, moi, pour moi, qui sont vraiment marquants sur le début de saison, c'est l'irrégularité vraiment complète. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas capable de faire un match plein, mais c'est limite on n'est pas capable de faire un quart-temps plein, en fait. C'est vraiment très, très irrégulier. Moi, le premier match m'avait vraiment marqué face à Golden State parce que c'était vraiment les montagnes russes, quoi. On leur a mis des runs énormes et on a pris des runs énormes, on a complètement disparu et où ils faisaient ce qu'ils voulaient. finalement, c'est quelque chose qui s'est un peu prolongé sur les matchs suivants. C'est encore quelque chose qu'on a vu un peu contre les Lakers, bah, où on a quand même globalement été au niveau pendant trois quarts temps et on s'est complètement écroulé dans le quatrième. Contre Utah, c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est un match où il n'y a pas eu de difficultés particulières et où ça s'est bien passé, course contrôle du début à la fin. Mais derrière, on a revu cette irrégularité là, chronique contre les Spurs, vraiment de manière éclatante là, sur ces deux matchs-là. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'on peut imputer sans trop de difficultés au côté, ben, voilà, effectif complètement renouvelé, nouveau coaching staff, nouvelle manière de faire. On part un peu dans l'inconnu, comme tu disais, Greg, on essaye des choses, on voit ce qui marche ou pas. Donc il y a ce côté-là. Mais effectivement, il y a un autre côté, moi, que je trouve vraiment très marquant là, dans le début de saison des Suns. C'est l'approche mentale qui, pour moi, est pas bonne du tout. Vraiment pas bonne du tout. T'en as parlé un peu, Greg. Mais il y a vraiment un souci, en fait, de ce côté-là pour moi. C'est-à-dire que tu peux pas arriver et jouer les deux matchs de. Enfin, en fait, les deux matchs de San Antonio pour moi sont très très marquants. Alors, il y a le côté tu t'écroules en fin de match, donc déjà mentalement c'est un peu inquiétant. C'est arrivé donc sur déjà 3 quatrième quart-temps, hein, puisqu'on peut compter aussi celui d'hier. Il y a le quatrième quart du premier match contre les Spurs, et il y avait le quatrième quart contre les Lakers. C'était un peu la même histoire. Donc, il y a ce côté-là de tu peux t'écrouler un peu à n'importe quel moment, donc il y a pas trop, enfin, tu n'arrives pas vraiment à construire de la confiance. Même au-delà de ça, pour moi, il y a une approche des matchs sur le niveau mental qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver face aux Spurs, quand bien même c'est une petite équipe, quand bien même ils ont que des jeunes ou quoi que ce soit, ils font pas très peur sur le papier. Tu peux pas avoir cet esprit-là, que ce soit sur le premier match ou sur le deuxième. Tu peux pas rentrer dans les matchs de cette façon. Enfin, tu peux pas rentrer dans le deuxième match de cette façon après avoir perdu le premier. C'est juste pas possible. Tu peux pas être dans la suffisance alors que tu t'es pris une clim de l'espace 2 jours plus tôt. C'est impossible pour moi. C'est surréel, quoi. C'est surréaliste. Ça n'a aucun sens, quoi. Et de l'autre côté, tu peux pas prendre les mecs de haut, donc dans le premier match, tu peux pas les prendre de haut en mode ah, bah, c'est bon, là voilà, il reste 10 minutes, en fait le match il est fini, le match il est pas fini, c'est la NBA, on le sait très bien. C'est toujours comme ça en fait. Enfin, je veux dire, c'est pour ça aussi que tu l'as dit très bien, Benjamin, tout à l'heure. C'était une espèce d'accident, mais c'est le genre de choses qui peut arriver en NBA, en fait, quoi. Une fin de match un peu mal maîtrisée, où tu te retrouves voilà, dans une situation à accident et où ça peut basculer contre toi, contre toute attente, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Donc, enfin. Encore une fois, il y a eu un manque de sérieux pour moi dans la vision de ces matchs. Et j'ai même. Enfin, en fait, c'est l'enchaînement aussi d'avoir vu les matchs en replay qui me fait dire ça, peut-être. Mais après avoir vu le match de Utah, je me suis dit, mais c'est bizarre. Enfin, ils ont l'air vraiment trop, trop, trop contents d'eux pour juste une victoire contre Utah, quoi. Et effectivement, finalement, c'est un peu ça qu'on a vu après contre les Spurs. Une équipe un peu trop sûre de ses forces, qui est même. Enfin, qui, d'une certaine manière, ne prend pas la mesure des efforts qu'il y a à faire pour gagner un match NBA. Et c'est un peu dommage, j'espère que ça va changer, parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est un côté très inquiétant. Tant l'irrégularité, c'est quelque chose qui est logique, compte tenu là, de ce qu'on a vu cet été. Autant l'approche mentale, encore une fois, suffisante comment dire, sur courant alternatif, c'est pas normal, en fait, c'est juste pas normal. Donc voilà, Benjamin, toi, comment t'as vu, comment tu juges un peu le début de saison des Suns, à l'aune de ce qu'on a dit, mais évidemment à l'aune de ce que t'as vu, voilà, avec un point de vue en plus moins passionné, forcément.
Non, ouais, c'est sûr. Moi, y a moins la passion. Après, moi, je vous rejoins sur beaucoup de points. Et je pense que tout ce que vous venez de dire, en fait, ça correspond à plus ou moins un point majeur qui est le mental que tu as souligné. Et contre les Spurs, c'était particulièrement flagrant parce qu'il y a deux matchs en back-to-back. Et donc, on voit bien que le premier match, ils arrivent et il n'y a pas vraiment de préparation. Mais en même temps, Bill n'est pas là, Booker n'est pas là. C'est le début de saison, on le comprend. Mais c'est vrai que 2 jours plus tard, les Spurs, ils arrivent avec un plan offensif, défensif. Les Suns, eux, ils arrivent un petit peu avec les mains dans les poches. C'est le collègue Pascal Gibernet qui disait sur Twitter, un staff a fait son travail vidéo et l'autre arrive un petit peu en se reposant uniquement sur le CV de ses joueurs. Et moi, c'est la sensation que j'ai eue en voyant les Suns, parce que, comme l'a souligné Grégoire, je vais pas m'étaler là-dessus, il n'y avait pas plus en fait d'indices pour attaquer la zone pour le deuxième match face aux Spurs. Et puis ensuite, aussi même défensivement parlant, il n'y a pas de solution qui a été proposée. Les Spurs, toute la soirée, ont juste envoyé des lobes à Wembanyama. Bon, ils n'ont pas fait que ça, hein. Mais ils ont multiplié les actions où ils ont envoyé des lobes à Wembanyama. Ça passe au-dessus de Drew Eubanks, qui fait 2,8 m et qui est l'option la plus viable parce que Yusuf Nurkic est à côté de la plaque. Et Wembanyama le prend. Et puis après, c'est panier gratuit. Et sur la fin du match, quand c'était pas panier gratuit, vraiment sur les derniers instants où Wembanyama a marqué 10 points, bah c'était faute parce qu'il n'y avait pas le choix, c'est pareil. Donc il y a ce côté où. En fait, ils sont arrivés et juste, ils étaient démunis. Démunis face à la défense des Spurs dans le premier quart-temps, démunis face à l'attaque de Wembanyama pendant tout le match. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un manque de sérieux qui est troublant, de de la part du coaching staff, de la part de toute l'équipe. Et quand on arrive sur la fin du match, il y a un manque de sérieux individuel et un manque de détermination. La grinta dont parlait Grégoire, moi je ne la retrouve pas du tout à ce moment-là. Quand tu marques 5 points à 1 sur 10 au tir dans les 4 dernières minutes, dans une équipe où il y a Kevin Durant, Devin Booker, Eric Gordon, Grayson Allen, tu as plein de shooters, tu as plein de mecs qui sont capables de marquer de pas mal de manières différentes.
Attends, si... je te coupe Benjamin, mais zéro tir de Eric Gordon dans le quatrième carton hier. Zéro tir.
Non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'en plus, le jeu est super statique. Au final, du coup, ils marquent leur seul point sur des lancers. Et que fait Kevin Durant? Est-ce que s'il y a un joueur qui doit te débloquer dans ces situations-là, c'est pas Kevin Durant? Pourquoi est-ce qu'il veut pas les faire? Pourquoi est-ce que Vogel fait pas en sorte qu'il prenne ces tirs-là? Pour moi, c'est un mystère complet parce que quand tu égalises 116-116 face à la jeune équipe des Spurs, certes, cette équipe-là, elle a peut-être plus de volonté. Elle est jeune, elle en veut, elle veut quelque chose. Elle ne voit pas forcément aussi loin que les Suns, qui eux visent le titre NBA, mais tu es censé quand même pouvoir faire jeu égal à un moment avec eux, pour 4 minutes quand même. Tu peux te motiver pendant 4 minutes. Et ça, pour moi, c'est le facteur qui m'a choqué chez les Suns. C'est vraiment ce facteur-là dont vous parliez, c'est le mental. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est le côté vraiment extrêmement héliocentrique et l'incapacité un petit peu à sortir de cet héliocentrisme qui me surprend aussi. Enfin, ça ne me surprend pas, mais ça me déçoit un petit peu, où on a l'impression que. En fait, sur le terrain, il y a Kevin Durant et les 4 autres mecs autour, ils sont juste là pour Kevin Durant. Tout lui tourne autour, il n'y a pas vraiment de création qui se fait sans lui. Et en fait, tout marche à partir de pick and roll, ça marche aussi pour Devin Booker, hein. À base de spin pick and roll, à base de juste on bouge partout en attendant que Kevin Durant soit trouve lui-même l'ouverture, soit kick out pour un coéquipier. Et en fait, il y a ce truc qui est flagrant de... Il y a un jeu collectif que je trouve encore beaucoup trop maigre. Alors certes, c'est le tout début de la saison, donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore des systèmes extrêmement établis, que de match en match, l'équipe ne s'adapte pas énormément face aux adversaires, et en particulier face à une équipe en reconstruction. Mais c'est vrai que de la part d'une équipe qu'on attend parmi les favoris au titre, moi je trouve tous ces facteurs très décevants. Et là, pour l'instant... Pour moi, les Suns sont en fait ressemblent pas à une équipe compétitive et ressemblent pas à une équipe qui est censée viser le titre NBA parce qu'il manque de plein de facteurs et de plein de choses qui font les équipes championnes et de plein de choses qui ont justifié le transfert de DeAndre Ayton pendant l'été, cette histoire de manque d'envie. Maintenant que le problème entre guillemets DeAndre Ayton est parti, où est l'envie? Donc concrètement, j'ai l'impression que là, les Suns, ils ont pas assez changé et que ils ont encore beaucoup trop de problèmes pour avancer sereinement dans la saison. Moi, c'est ma take pour l'instant. Encore une fois, ça reste prématuré, mais c'est ce qu'on voit pour le moment selon moi.
Ouais, donc là, moi, et en fait, bah, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer sur la durée, notamment l'alchimie, notamment justement les solutions que tu peux trouver dans le jeu en attaque comme en défense. C'est vrai que pour l'instant, on est à peu près au point zéro de tout ça, hein, on se rend compte de ça. Moi, vraiment, ce que j'espère, à la limite, c'est que là, c'est cette double humiliation, parce que vraiment, pas l'humiliation pour moi, de ce qui s'est passé sur ces deux matchs-là, plus que vraiment les résultats, c'est la manière hein, qui est humiliante pour Phoenix. Au moins, ça va calmer tout le monde, ça va permettre aux gens un peu, enfin, et notamment, effectivement, aux gens à l'intérieur de l'équipe, dans le staff et dans le roster, peut-être de se dégonfler un peu le citron et de pas se croire arrivé, alors que pour l'instant, absolument rien n'a été fait, en fait, quoi. Donc, vraiment, faut pas oublier ça non plus, en fait, c'est-à-dire qu'on nous présente comme des candidats au titre sur la base de voilà, l'effectif, le fait qu'il y ait 3 All-Stars ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est une équipe qui a absolument rien prouvé du tout, en fait, quoi, à part effectivement ce premier match contre Golden State qui était pas mal. Bon, voilà, quoi, mais bon, c'est un match. C'est une équipe qu'on n'a pas vraiment, enfin, qu'on a jamais vu en action. Dans des moments où tu te dis bon bah voilà c'est assez sérieux, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc encore une fois voilà, quand tu pars d'une page blanche, c'est difficile pour moi, en tout cas de mon point de vue, de me dire que tu pars enfin comme si t'étais voilà la meilleure équipe sur le parquet ou enfin t'as pas grand-chose à prouver. Encore une fois, comme tu dis, tu peux te permettre d'y aller un peu par-dessus la jambe, Benjamin. Enfin, tous ces trucs-là moi m'ont beaucoup gêné notamment sur ces deux matchs-là, mais même d'une manière générale sur le début de saison. J'espère qu'au moins ça va permettre à cet effectif et à cette équipe de se concentrer sur l'essentiel. Il va falloir bosser beaucoup. Il va falloir voilà du sérieux en permanence en fait. Et c'est comme ça qu'on va arriver à progresser et effectivement à peut-être gommer tous ces grosses enfin en tout cas remplir là ces grosses lacunes que tu as évoquées Benjamin. Greg, est-ce que t'as quelque chose à ajouter pardon là sur les Suns plus généralement, hein, des éléments T'as parlé de pas mal de trucs là, dans ton intervention précédente, mais d'autres éléments que tu voulais apporter par rapport à tout ça.
Non, je vous rejoins. Je crois qu'on se rejoint tous de toute manière parce que c'est difficile d'avoir un
De dire
autre
le
constat
contraire.
si on est
Ouais.
réaliste. Tu disais, pardon?
Je disais, c'est difficile de dire le contraire là au point où on en est.
Oui, je pense que les analyses vont dans le même sens. On peut mettre des choses sur les joueurs, on peut mettre des choses sur le coaching staff. On peut choisir où on les met, etc., en fonction de ce que c'est. Je pense notamment à cette fin de match, du premier match contre les Spurs. Peu importe sur quelles épaules on les met, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les Suns ont du boulot. Il y a des axes à corriger, j'ai presque envie de dire au plus vite, mais pas parce que ça presse d'un point de vue urgent. Hein. En fait, on a une urgence de fan juste parce qu'on veut voir notre équipe gagner le plus vite possible, le plus possible et de la meilleure manière possible. Mais en réalité, souvenons-nous du parcours de Boston quand ils font les finales NBA. On pourrait faire la moitié, voire les deux tiers de la saison en étant dans le ventre mou de la conférence Ouest. Tant qu'on a un run avant les playoffs et qu'on fait un run en playoffs inoubliable, notre saison, elle est possible. Elle est possible. Et aujourd'hui, à ce jour, en étant réaliste, elle est possible. C'est juste que ça va demander à Frank Vogel et aux joueurs un sacré boulot. Moi, je voudrais revenir sur un mot que tu as prononcé et que j'ai beaucoup aimé, qui est le mot humiliation. Parce que moi, je le prends d'un point de vue strictement étymologique. C'est-à-dire que, en fait, c'est une vraie leçon pour moi de Popovic à Vogel et à son équipe et aux joueurs. C'est une leçon d'humilité. C'est-à-dire que vraiment, il a montré qu'avec une équipe qui est une équipe que personne ne donne dans le play-in, c'est Spurs, à part trois mecs qui ont envie de faire des paris et de gagner de la thune. Mis à part ça, il a une équipe qui est quand même pas gaulée pour aller choper le titre, et il prouve que juste à l'envie et en mettant en place des systèmes et en y croyant, il arrive à obtenir des résultats avec le talent de deux joueurs qui surclassent les autres et qui sont Devin Vassell et Wembanyama. Parce que Vassell, on parle beaucoup de Victor Wembanyama sur ses débuts de saison, mais le début de saison de Devin Vassell, c'est sale de chez sale, d'accord? C'est incroyable, vraiment, c'est niveau
Jusqu'à
All-Star
hier,
pour
du
moi.
coup.
Jusqu'à hier, ouais, jusqu'à hier. Mais c'est vraiment, c'est costaud, costaud. Mais du coup, moi, voilà, j'aimerais beaucoup qu'on revienne à une équipe modeste, humble, et qui bosse, vraiment qui bosse. Moi, sur le terrain, je veux que des Grayson Allen. Je veux que des mecs qui vont chercher le moindre ballon, la moindre solution, qui agressent le cercle en attaque, etc., quand il n'y a pas de mouvement de balle, qui provoque les kick-out, etc., et pas juste on attend que Devin Booker ou Kevin Durant fassent les différences. Ça, c'est pas possible. Ça peut pas être le Suns basketball que je vais regarder pendant 82 matchs plus les playoffs. C'est hors de question, sinon je retourne faire autre chose sur Twitter. Je vais parler de restaurants ou de fleurs, j'en sais rien, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, c'est pas possible, faut pas nous faire ça. Mais moi j'ai une question pour vous, les gars. Bon, vous avez compris que moi j'ai Grayson Allen dans mon cœur sur ce début de saison, entre autres. Hein. J'aimerais vous poser la question de si vous aviez un joueur des Suns à retenir sur ces cinq premiers matchs ou en tout cas des deux confrontations face aux Spurs, vous gardez qui et pourquoi?
Bah, moi j'ai envie de dire Bol Bol parce qu'il a marqué 38 points hier ou un mec similaire, tu vois. Mais
Chaque,
plus
c'est
sérieux,
vraiment une
c'est toi?
ordure.
C'est toi, Chaque? C'est fou, il a changé.
Non, plus sérieusement, moi je vais retenir. Je comprends que je choisisse Grayson Allen et j'aurais peut-être choisi aussi si j'avais pas joué ma carte un peu contradiction. Moi, c'est Drew Eubanks parce qu'en fait, le mec, déjà, moi je l'aime bien pour commencer. C'est un mec que j'ai toujours apprécié depuis qu'il est passé par les Spurs, d'ailleurs. C'est assez amusant. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il est assez convaincant. Alors, à sa mesure, parce que c'est pas du tout le mec qu'on attendait dans un rôle de pivot titulaire potentiellement. C'est pas du tout un mec qui en a le calibre en NBA normalement. Mais c'est vrai qu'il a fait un long chemin. On voit qu'il a beaucoup bossé cet été. Là, il a encore un peu musclé son jeu. Et en fait, dans les intentions, ça contraste complètement avec Yusuf Nurkic parce que. Bah oui, il est peut-être un peu petit, en l'occurrence, Drew Eubanks, pour affronter Victor Wembanyama. Il lui manque des capacités techniques par rapport à ce que peut faire Yusuf Nurkic dans ses meilleurs soirs. Par contre, en termes d'intention, lui, il joue pour de vrai, je trouve. Et c'est vrai qu'il m'a agréablement surpris. Et je trouve que le match d'hier, justement, où il prend le pas sur Nurkic, il joue plus que lui, et où il finit par être match-up le plus souvent face à Wembanyama, alors, ce qui n'a pas très bien marché, mais quand même, c'est un petit peu un indicateur aussi du fait que Frank Vogel le voit potentiellement comme Bah voilà, un mec qui va prendre une place encore plus importante dans la rotation à l'avenir et peut-être progressivement faire perdre du terrain à Yusuf Nurkic. Moi, c'est vrai que ce mec-là me surprend parce que depuis plusieurs saisons, enfin, Drew Banks, c'est Drew Banks, quoi. J'ai aucune idée de quel est son contrat et ça dit tout du statut du mec dans la ligue. Donc quand tu vois un mec qui sort un peu de nulle part, entre guillemets, et qui d'un coup devient intéressant pour une équipe qui est peuplée de stars et de joueurs expérimentés, bah moi c'est ça qui me marque, tu vois. C'est l'émergence de ce gars-là. Et moi je suis assez convaincu, ouais.
Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. J'adore aussi le début de saison et je pense que Rodolphe va te rejoindre là-dessus.
Oui, bah, de toute façon, c'est difficile sur le côté positif de sortir d'autres joueurs que ces deux-là. Hein, sur les deux matchs, on peut quand même parler sur le premier enfin, globalement, en fait, c'est ça qui est fou. Hein, c'est gâché par son quatrième carton, mais les trois premiers cartons d'Eric Gordon sont quand même pas si mal sur ce match-là. Pareil, enfin, tu vois, KD sur le premier match, en vrai, moi, je suis satisfait de ce qu'il fait. C'est compliqué, en fait. J'aurais du mal vraiment à sortir un mec positivement sur ces deux matchs, hors de, effectivement, Eubanks et Grayson Allen qui ont fait le taf d'un bout à l'autre à peu près. Et effectivement, au moins dans l'énergie, dans l'intensité, ils étaient là et ils n'étaient pas hors sujet, on va dire. Moi, j'aurais bien peut-être, du coup, dans l'autre côté, dans le côté un peu négatif, attirer un peu plus sur un joueur qui, pour moi, est en dessous de ce que beaucoup de gens attendaient sur ce début de saison, donc sur ces matchs-là, mais même d'une manière générale, c'est Yuta Watanabe qui, pour moi, illustre à l'inverse le côté un peu, bah, c'est pas logique en fait, quoi. Enfin, pourquoi ce mec continue à avoir, après 5 matchs, autant de temps de jeu, alors que franchement, son impact est quand même très très limité sur le terrain. Alors, certes, de temps en temps, il rentre ses tirs. C'est arrivé sur le premier match, je crois, il est à quoi, à 5. J'allais dire à 5 sur 8, non, il est à 4 sur 8, c'est pas mal, effectivement, 3 sur 7 à 3 points. Donc il y a ce côté-là, mais bon, franchement, moi je me souviens de l'impression visuelle sur ce match-là, c'est pas du tout bon. Il est souvent pris en défaut en attaque, enfin en défense, donc du coup, quand lui est en défense, c'est pour l'instant un joueur qui a plutôt un impact négatif pour moi, en fait. En dehors du fait qu'il a plutôt un bon shoot à 3 points, il sert pas à grand-chose, et pour moi, il n'apporte pas, quoi. Donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi c'est pour l'instant le joueur principal de la rotation, d'autant plus qu'on a vu, alors moi je l'ai pas encore vu, mais on a vu hier que Keita Bates-Diop avait des arguments aussi sur ce poste-là de grand forward remplaçant, quoi, sortant du banc. Donc voilà, on espère aussi que ces matchs-là vont servir un peu à ça. Pour revenir sur le truc, quoi, moi qui m'inquiète vraiment, alors je vais pas non plus tirer sur l'ambulance et en rajouter sur Nurkic. Je vais juste donner un élément. Allez, si on va quand même tirer sur l'ambulance, ça me fait marrer parce que j'ai écouté un épisode de Dunk Hebdo, bah, je crois que c'était le dernier d'ailleurs en date, où je ne sais plus à propos de qui, Constant parlait de l'échelle de Zach Collins. C'est-à-dire, quand tu te fais mettre la misère par Zach Collins, c'est pas bon signe. Youssouf Nourkic s'est quand même fait crosser sur le premier match, s'est fait crosser ligne de fond par Zach Collins, quoi. Mais genre vraiment, t'avais l'impression que c'était Kyrie, quoi. Tu vois, genre, wesh. Ça, par exemple, tu vois, c'est des signes où tu te dis, bon, si un pivot lambda, enfin, encore une fois, avec tout le respect que je dois à Zach Collins, mais pour moi, c'est un pivot à peu près ordinaire de NBA, peut te mettre cette misère-là, franchement, t'as pas ta place en NBA, quoi, tout simplement. En tout cas, certainement pas en tant que starter. Moi, j'ai vraiment de grosses interrogations. Match après match, en fait, on se dit que c'est de plus en plus compliqué de gérer ça. Tu l'as dit très bien, enfin, vous l'avez dit d'ailleurs tous les deux, d'arriver à gérer une défense avec Yusuf Nurkic en protecteur de cercle et en défenseur intérieur principal, quoi. Moi, j'ai vraiment des soucis du 2 en attaque pour l'instant. Bah voilà, pour l'instant, en fait, voilà, depuis sur 5 matchs, Yusuf Nurkic a servi à prendre des rebonds, faire des écrans et faire des passes. Voilà, c'est bien, c'est pas mal, mais franchement, enfin, pour l'instant, il est lui aussi, je trouve, plutôt négatif dans ce qu'il apporte. Donc il y a vraiment un problème là-dessus. Après, encore une fois, c'est voilà, c'est de la mise en place. Donc individuellement, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui manquent, en fait. Hein. Voilà, quoi. C'est aussi ça. Hein. Et on va voir ça sur la durée. Est-ce qu'on peut hausser le niveau? Peut-être pour changer de sujet un peu.
Je vais juste rebondir sur ce que tu
Vas-y,
disais
vas-y.
avec Ben, mais bah déjà, moi je rejoins Benjamin sur Drew Eubanks, hein, évidemment. J'ai adoré. En fait, je trouve juste que c'est le joueur qui a le plus la mentalité que j'ai envie que l'équipe ait cette année. C'est simple, hein. Lui et Grayson Allen, c'est la mentalité des Suns. Je veux que ça joue avec cette mentalité-là. Quitte à perdre, hein, je m'en fiche. Je veux juste que ça joue avec cette mentalité-là. Et ce qui me frustre dans les défaites qu'on a vues cette saison, c'est qu'en fait, les joueurs n'ont pas cette mentalité-là, même dans la. Enfin, moi, ça ne me dérange pas, encore une fois, de lâcher quelques matchs, parce que de toute manière, ça va arriver. On ne peut pas faire une saison en 82-0. Donc, ça ne me dérange pas de perdre tant que la mentalité, c'est celle-ci, et qu'il n'y a pas de suffisance quand on est victorieux, comme par exemple contre Utah. Et par contre, sur Nurkic, là où je vais panacher un peu ce que tu dis, même si je ne suis pas foncièrement en désaccord avec tes doutes, parce que je les ai aussi, ces doutes, c'est que moi, ce qui me pose problème avec Nurkic, c'est pas vraiment sa défense, dans la mesure où dès qu'il est arrivé, je me suis dit, ok, en défense dans la peinture, ça va être une catastrophe. J'ai fait un article sur le roster à ce sujet-là, sur la défense des Suns sur les 5 premiers matchs, et on voit bien que effectivement, les Suns sont un des meilleurs defensive rating, en tout cas avant le dernier match contre les Spurs, les 2 derniers matchs contre les Spurs, ouais. On était le deuxième ou troisième defensive rating de la ligue, donc c'est plutôt très cool. On est censé être une bonne défense, mais effectivement, on est une des pires défenses dans la peinture et pour défendre notre cercle. Et c'est entre autres sur le dos de Yusuf Nurkic. Moi, je ne m'attendais pas à ce que la défense autour de Yusuf Nurkic puisse être potable. Moi, mon idée, c'était qu'on arrive à obtenir une place à la fin de la saison entre le 10 et le 15e defensive rating, malgré Yusuf Nurkic. Ce sera toujours une liability, et c'est pas là-dessus, c'est pas sur ce plan-là que j'attends de sa part des progrès ou disons une surmotivation et en tout cas un impact dans les matchs au plus important. Moi, le problème, c'est l'attaque. Le problème, c'est que le mec, il y a 2 minutes au compteur dans le premier quart-temps, le mec, il a déjà 14 fautes. C'est pas possible. On n'est pas au rugby ici. On n'est pas au rugby. Tu peux pas foncer dans les gens. Comme si c'était le métro à Paris en heure de pointe. C'est juste pas possible en fait. C'est pas possible au niveau d'exigence et de précision dont les Suns vont devoir faire preuve pour aller au bout de leur objectif qui est gagner le titre. Là, ça devient un point de néfaste pour le succès de l'équipe très important. On peut pas se retrouver en foul trouble quand bien même derrière on est un energizer comme Drew Eubanks qui sort du banc. C'est juste pas possible. Voilà, Drew Eubanks c'est un peu notre Ronny Turiaf. C'est très cool, c'est très chouette, c'est plein de bonnes intentions, ça envoie des contres, ça c'est trop cool. Mais le pivot titulaire doit être un pivot qui assure et doit pas se retrouver en foul trouble à la fin du premier carton ou au milieu du deuxième carton. C'est juste pas possible. Les 18 minutes de Yusuf Nurkic, normalement, il y en a au moins 10 de plus, au moins 7 de plus. Et pendant ces 7-là, et pendant toutes ces minutes sur le parquet, normalement, c'est notre hub offensif. Là, ça fait 2 ou 3 matchs que je le vois plus envoyer des pistoles, envoyer des end-off, etc. Quand il est sur sa tête de raquette dans les hornes, en train d'envoyer ses passes, etc. C'est là-dessus qu'il est bon. C'est là-dessus que il doit servir les cuts des joueurs. Sauf qu'il est tellement en foul trouble qu'on se retrouve avec une absence de hub offensif et du coup aucun cut ne trouve sa passe. Et donc ça finit par décourager les extérieurs, à commencer par Yuta Watanabe, Eric Gordon. Grayson Allen dans une moindre mesure parce que lui il continue d'être agressif, ça les décourage de prendre les cuts alors que c'est notre jeu d'attaque depuis le début de la saison. Donc forcément, si Yusuf Nurkic est autant une liability en attaque qu'en défense, là on a des très gros problèmes. Donc moi j'attends pas que ce soit un joueur qui devienne élite en défense, ça le sera jamais et je compte pas là-dessus. Par contre, on a besoin de lui pour outscorer les autres équipes et pour avoir besoin de lui, il faut qu'il soit sur le terrain et donc pas en foul trouble quoi.
Ouais, non, mais t'as bien résumé le truc, et de toute façon, hein, c'est ce qu'on dit un peu depuis le début de ce podcast-là. Il va falloir vraiment une hausse du niveau d'implication déjà dans un premier temps, de sérieux et même de basket simplement, hein, de la part de pas mal de joueurs de l'effectif là pour qu'on puisse un peu progresser et arriver effectivement petit à petit à devenir une équipe dangereuse, une équipe qui fait peur. C'est clairement pas vraiment le cas au point où on en est. Ouais, donc. Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour là de la question autour de Phoenix.
Oui, c'est
Peut-être
bon,
qu'on s'y est.
j'ai fini de râler, c'est bon.
On a lâché notre sel, donc ça va mieux.
C'est bon.
Non, moi je te dis, j'en garde un peu, mais voilà, encore une fois, j'essaie de pas trop blesser aller à l'énervement parce qu'encore une fois ça n'a pas trop de sens après 5 matchs. Donc ouais, non, on va finir peut-être ce podcast en parlant un peu de Victor et des Spurs. Ouais, peut-être que te donner la parole là-dessus, Benjamin, sur ce début de saison et sur les promesses un peu de ces débuts de Victor. Donc il y a cette réputation qui commence à naître un peu là, du clutch Wembanyama très sérieux. Voilà, comment Encore une fois, comment tu as vécu un peu tout ça, sachant que on invite évidemment les auditeurs qui souhaiteraient avoir de plus amples informations et une plongée plus importante à écouter notamment les podcasts Mob Deep que tu fais depuis le début de la saison. Magnifique, hein, on adore cette ref dans Belle Loupe.
Merci, c'est pas moi, c'est Théophile, notre head chef, qui a
Ah, mais
trouvé
normal, c'est un
le jeu de
vieux,
mots.
c'est forcément un vieux.
C'est des rêves de vieux, ça,
C'est
The
ça.
Mais c'est vrai que, ironiquement parlant,
Hier, les scènes étaient les chouquouans, ouais. Clairement. Pardon, vas-y.
ironiquement, c'est Moby Deep, apparemment, c'était le surnom de mon grand frère qui a 16 ans de plus que moi au
D'accord.
collège-lycée, en gros.
Oui, du coup, le logique au niveau de l'époque, ça ne peut plus.
Ouais, c'est ça, mais bonne surprise, quoi. Je savais pas du tout avant de lancer mon podcast que c'était son nom à l'époque, donc
D'accord, c'est marrant.
voilà. Pour le record, je lâche ça. Donc c'est vrai que, voilà, sur les Spurs, pour rentrer un peu sur ce sujet-là, c'est vrai que moi, hier, quand j'ai vu... Enfin, pour moi, le match un peu charnière, c'est le match d'hier contre les Suns, parce que c'est le match où tout clique. En fait, les 3 points tombent, et vraiment dans des proportions qui sont assez inattendues, parce qu'ils sont vraiment, en l'occurrence, à combien? 48,6% de 3 points, ce qui est énorme. Zach Collins s'y met enfin les siens, alors qu'il avait raté... En fait, il avait briqué tous ses 3 points depuis le début de la saison. Jeremy Sohan, Trey Jones, ça fonctionne. En fait, tout clique partout. Et Victor révèle son potentiel de superstar. Alors, d'un côté, moi, il y a le côté où je suis très satisfait en fait de voir ça. Parce que moi, ces jours-là, je les vois à l'entraînement. Zach Collins, je le vois mettre tous ses 3 points à l'entraînement, au shooter round et tout. Et à chaque fois, je me dis, ils vont finir par tomber en fait en match. Et là, quand ils tombent, je suis satisfait. C'est un petit peu comme les vidéos à la con sur TikTok avec de la pâte à modeler, c'est juste, c'est le truc a fait un tour complet, c'est bon, je suis content. Et puis, en fait, l'équipe, pour moi, elle a un potentiel qui est ouf. Et elle a un côté original, intrigant, qui est impressionnant, parce qu'avec Jeremy Sohan à la main, ils font des choses qui sont vraiment intéressantes. Même sans lui, de manière générale, on a quand même des joueurs qui ont une personnalité qui est très marquée, qui ont pour beaucoup un style de jeu qui est assez original. Je pense à Sohan, Wembanyama, Collins en l'occurrence. Et du coup, l'équipe, elle est vraiment agréable à voir jouer. Et donc, quand ça fonctionne comme hier, c'est incroyable. Maintenant, tout à l'heure, Grégoire a dit c'est une équipe que quasi personne n'attendait au play-in. Il faut voir à quel point les journalistes à San Antonio et évidemment la ville, mais ça, je le prends moins en compte parce qu'il n'y a aucune objectivité là-dedans. Mais les journalistes à San Antonio sont beaucoup plus optimistes que les gens en France par rapport aux résultats des Spurs. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent se qualifier en play-off. Passer par le play-in, et pour eux c'est quasiment sûr en fait. Et c'est vrai que là pour l'instant l'équipe elle en montre le potentiel en tout cas. Mais pour moi le principal c'est qu'il faut rester patient. Ça je l'ai tweeté, je vais le matraquer dans les jours qui viennent parce que pour moi c'est la clé. Aujourd'hui Victor Wembanyama il met 38 points, il brille pendant 34 minutes, parfait. Demain il y a des chances qu'il fasse 15 points, qu'il ait un problème de faute, qu'il soit un peu lent au démarrage. Qu'éventuellement ils sont un peu perdus défensivement, il l'a d'ailleurs été hier contre les Suns. Et c'est vrai qu'en fait, le mec peut pas être parfait, il a 19 ans. Et l'équipe peut pas être parfaite, c'est la plus jeune équipe de la ligue à égalité avec les Pistons. Donc maintenant, en fait, le truc, c'est que là, ce qu'on a vu hier, il faut pas se dire que ce sera ça tous les soirs. Pour les gens qui regardent les Suns, par exemple, et qui voudraient regarder plus de Spurs, vous pouvez pas cliquer sur les Spurs et vous dire que tous les soirs, Zach Collins va mettre 3 points, que tous les soirs, Jeremy Sohan va envoyer des passes D sans perdre de ballon. Et que Wembanyama va en mettre quasiment 40 à chaque reprise. En fait, il faut se dire que c'est un processus d'apprentissage, que c'est une équipe un peu laboratoire, et que du coup, ça va leur prendre du temps de développer leur jeu, de mettre en place des choses qui sont un petit peu originales, un peu excentriques, et que là-dedans, il va y avoir un tas d'erreurs de la part de Wembanyama, de la part de tout le monde. Et donc, moi, ma take sur ces matchs-là au début de la saison, c'est que, ok, là, on voit le potentiel, il est dingue, et moi, j'adore ça. Et je suis heureux d'être venu à San Antonio pour voir une équipe qui est aussi intéressante. Mais d'un autre côté, doucement. J'ai vu des gens parler d'acte de naissance de Victor Wembanyama. Des gens dire on a la preuve que Victor Wembanyama va impacter la NBA et changer son sport. Où étaient ces gens quand Brandon Jennings a marqué 55 points dans son septième match en tant que rookie face à Stephen Curry et que tout le monde était en mode ah bah vous voyez, c'est lui le meilleur meneur. Non, enfin on peut pas juste regarder Victor Wembanyama mettre 38 points et dire c'est bon, c'est fait, on sait ce qui va se passer, il est sur cette trajectoire. D'accord, c'est son destin de changer la NBA. Mais laissez-lui le temps de l'accomplir, quoi.
Non mais clairement, et puis effectivement comme tu dis, il faut pas brûler les étapes dans le sens où la logique de tout ça. C'est clairement que voilà, il va y avoir plus de contretemps dans un premier temps, et on sait que voilà, hein, tout génie qu'il est, par exemple un Luka Doncic, ça n'a pas été immédiat non plus le succès en NBA. Il est Là, après 5 saisons, bah, toujours finalement en recherche du bon équilibre pour aller vraiment dominer le truc. Wembanyama, ouais, non. Bah, en fait, c'est un peu l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a aussi le côté, si c'est vraiment. Enfin, tu vois, il y a vraiment l'attente énorme autour de ça, le côté extraterrestre, le côté joueur générationnel, plus. Ces mecs-là font. Comment dire? Quand ils arrivent, ça change beaucoup de choses. Donc, effectivement, il y a aussi cette attente-là, et je pense que c'est ça qui est beaucoup mis en exergue par les pronostics des Américains là-dessus. On attend que ce soit un joueur qui fasse la différence immédiatement parce que voilà, c'est un joueur différent. Je pense que le processus là que tu décris, Benjamin, c'est clairement le processus habituel hein, en NBA. C'est voilà, d'abord, tu commences par en chier un peu, tu mets les éléments petit à petit en place, et puis il y a un moment où ton puzzle, encore une fois, on peut citer tous les plus grands joueurs hein, de l'histoire, hein, LeBron, Michael Jordan, tous sont passés par cette phase de construction où ça n'a pas toujours été simple et où, bah, quand bien même individuellement t'es performant, bah, t'arrives pas forcément à trouver comment dire, le fait que ça clique collectivement derrière. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça en fait. On est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on attend des choses exceptionnelles de ce rookie qui n'est pas comme les autres évidemment, mais tout exceptionnel qu'il est. Et encore une fois, on peut reprendre ces cas-là de rookies qui aujourd'hui sont en discussion pour le GOAT, LeBron et Michael Jordan. Voilà, encore une fois, ça a beau avoir été brillant dès le début, ça n'a pas été parfait dès le début, tout simplement quoi. Et c'est normal en fait, c'est bien normal. Donc sans attendre à ce qu'il fasse des perfs Jordan ou à la LeBron, on peut se dire que voilà, la mesure, ça va aussi être de pas s'enflammer. C'est là où je pense que c'est tout ton propos était là, Benjamin. De ne pas s'enflammer quand ça sur les hauts en fait, il y aura des hauts, il y aura des bas. Sur les hauts, c'est pas la peine de trop s'enflammer, parce que sinon effectivement le risque c'est de retomber aussi bas dès qu'il y aura une contre-performance qui va pas manquer d'arriver. Forcément, c'est la NBA, il y a 80 matchs, on sait qu'il va pas tous les réussir, donc il y a ce côté-là quoi. Toi Greg, comment t'as suivi un peu les débuts de Victor? Évidemment, on est enfin il y a le côté en tant que Français, on est content de se dire que voilà, il y a beaucoup d'espoir autour de ce joueur-là, mais il y a aussi voilà toute cette espèce de cirque complètement dingue médiatique, mais pas seulement, hein, vraiment d'attention autour de lui. On le voit bien sur les réseaux sociaux, ça parle vraiment beaucoup, enfin sur Twitter notamment, où ça parle beaucoup, X pardon, où ça parle vraiment beaucoup de Victor. Il y a vraiment une fébrilité générale des fans de basket, des fans de sport. Moi, je veux dire, enfin, vraiment, dans mon entourage, petit aparté pour parler de moi, mais dans mon entourage, voilà, les gens savent que je suis fan de basket. Depuis 3 mois, on ne me parle que de ça. Les gens me parlent de Victor Wembanyama. Ah, t'as vu le français, machin, machin, super grand, le freak et tout. Donc, des gens qui s'intéressent pas trop au basket, il y a vraiment aussi ce côté-là de ce mec-là. Il est, enfin voilà, il dépasse médiatiquement et en termes d'attention tout ce qu'on a pu voir, nous, en France, jusqu'ici. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est difficile à gérer, je trouve. Je sais pas, comment toi, tu vois tout ce début de carrière de Vic, Greg?
Moi, je le vois d'un très très bon œil parce que ce que j'aime chez ce jeune joueur, pardon, c'est surtout qu'en fait, il n'a pas l'air vraiment intéressé par tout ce qui se passe autour de lui. Il a l'air intéressé par le jeu, par ce que Popovic et Ginobili lui disent à l'entraînement, et c'est tout. Et moi, je trouve ça fantastique, fantastique à bien des égards d'ailleurs, parce que au-delà du fait qu'il va représenter sans doute la France dans les équipes nationales, au-delà du fait qu'il va être le nouveau visage de la NBA d'ici finalement assez peu de saisons, hein, quand bien même ça ne soit pas victorieux tout de suite, ça va en tout cas être playoffable assez vite, je pense, et ça va faire des cartons aussi, à mon avis, assez vite. Quand je dis assez vite, ce n'est pas en fin de saison aujourd'hui, hein, c'est ni même la saison prochaine, mais d'ici 3 ou 4 ans. Je me dis que c'est vraiment très très cool de l'avoir et surtout d'avoir la chance de pouvoir le suivre de manière privilégiée, parce qu'il partage notre nationalité, parce qu'il est couvert par des journalistes comme Benjamin qui font le voyage sur place, parce que tous les médias, des plus petits aux plus gros, s'intéressent à lui avec une loupe particulièrement épaississante. Et ben en fait, on a un accès privilégié qu'on a eu finalement pour aucun autre joueur dans la NBA, hein. Nous, les Français et les francophones de manière générale, on a un accès à la ligue et à un joueur qui promet d'être exceptionnel, particulièrement privilégié, et ça, franchement, moi j'avoue que j'ai beaucoup de gratitude envers les gens qui se bougent pour essayer de le couvrir au maximum. Je sais que certains en rient parce qu'effectivement, on lit tous les jours beaucoup, beaucoup de choses sur Victor et notamment quelques conneries. Mais non, mais ce que disait Benjamin tout à l'heure, hein, qu'on On lui donnait déjà 60 victoires en saison régulière à la fin de l'année 2024. Mais bon, peut-être pas, mais en tout cas, moi, franchement, je kiffe. Alors, je kiffe pas sur les deux derniers matchs, hein, évidemment. C'est toujours beaucoup plus chiant quand il s'agit de notre équipe en face. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même vraiment, vraiment très chouette d'avoir un type qui, non seulement sur le terrain, fait des choses extraordinaires, mais aussi à côté, propose une identité personnelle qui est en tout point honorable et agréable à suivre. Être jamais plus haut que son cul, il a toujours de très bonnes déclarations face à la presse, la manière dont il présente sa production, qu'elle soit négative ou positive, il y a toujours ce savant mélange à la fois d'humilité, de modestie, de connaissance du travail qui lui reste à accomplir, de sa chance d'être là où il est, dans l'environnement qu'il est, avec le coaching staff qu'il a, et en même temps d'une certaine dose de sûreté et
De
de
confiance,
confiance en lui.
ouais.
Parce que c'est clairement quelqu'un qui va jamais dire non, mais moi, vous savez, je suis juste là, tranquille, etc. Non, il le dira volontiers qu'il est là pour dominer. Mais parallèlement, toutes les fois où il le dit, il arrive quand même à le dire avec beaucoup de modestie. Et je trouve que chez un jeune joueur en NBA à 19 ans, montrer ce profil psychologique-là, c'est génial. Parce que moi, en fait, je pense au petit gamin que je vais croiser sur le playground quand je vais aller jouer là, du haut de mes 40 ans et je fais du basket depuis 3 semaines. Quand je vais aller jouer sur le playground et qu'on va me demander le ballon, tout le monde va me dire ouais, Wembanyama, Wemby, machin, etc. Je trouve génial que ce soit ce jeune-là qui inspire la nouvelle génération de basketteurs français qui arrive.
Moi, c'est vrai, pour être honnête,
Vas-y,
depuis que je suis
vas-y, vas-y,
arrivé, le truc
je vais
qui...
te lancer, Benjamin, vas-y, vas-y.
Bah, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit
Pour
Grégoire, sur
terminer,
ce côté
justement.
un peu tempérament. C'est vrai que pour le... En fait, moi, du coup, je le vois quasi tous les jours, à l'entraînement, dans les en conf de presse, après les matchs, etc. Et puis, il parle à chaque fois, en fait. Après chaque match, on a Victor Wembanyama. Et c'est un engagement de l'NBA, quasiment, qui nous a dit texto, en tout cas, qui m'a dit texto, Victor Wembanyama, vous l'aurez après chaque match, en conf d'après-match. Et en fait, le mec est passionnant. Le mec est fascinant. Moi, j'ai jamais été tant chauvin que ça. Quand l'équipe de France de rugby a perdu, désolé, mais j'étais pas au fond de mon lit en boule en train de pleurer parce que
Ouais, mais
l'équipe de
tu peux
France a
pas dire
perdu.
ça, Ben. Tu peux pas dire ça. T'as amené un drapeau breton en San Antonio. Comment tu peux nous dire que t'es pas chauvin?
Non, en vrai, je suis pas. En plus, je suis pas si breton que ça, j'avoue. J'aurais préféré ramener un drapeau catalan parce que moi, je suis plus proche de mes origines catalanes que bretonnes. Mais en l'occurrence, ma copine avait un drapeau breton à dépanner, donc j'ai pris plus pour le fun du truc en vrai. Mais moi, j'ai pas tant ce côté chauvin, je vais pas mentir, je serais pas parti à San Antonio si Victor Wembanyama avait été allemand ou belge ou quoi que ce soit. Enfin, belge peut-être parce que francophonie, mais parce qu'il y aurait eu un impact médiatique très différent. Mais par contre, sur le côté où, dans la manière dont j'aborde le joueur, je le vois pas vraiment sous un angle français. En fait, le mec me fascine juste parce qu'il est. C'est un mec qui est complètement unique dans l'histoire de l'NBA, y compris dans sa mentalité, y compris dans son tempérament. En fait, il me fait penser à Kareem Abdul-Jabbar, mais genre 10 ans après le début de sa carrière. Et on est à une époque différente où les jeunes ont accès à des éducations différentes, ils évoluent pas du tout dans le même milieu. Mais quand même, voir ça aujourd'hui, moi, ça me perturbe. Je suis face à ce mec de 19 ans. Et moi, les gens ils me disent, moi j'ai 23 ans, on me dit souvent que je suis mature. Et je vois Victor Wembanyama en face de moi, il a 19 ans, et je me dis, mais attends, moi je suis un gamin face à lui. Le mec, il est énorme. Et puis même, je me pose la question parfois, mais comment est-ce qu'il peut faire pour supporter cette pression? Et plus que pour la supporter, comment est-ce qu'il peut faire pour s'en alimenter dans le quatrième quart-temps? Parce que c'est ce qu'il fait. Et en fait, il me choque en tout point. Et même par juste sa bienveillance et tout, quand tu le croises dans un couloir et que tu dis bonjour à, du coup, son agent, à sa mère, machin, il te tend la main, il te sourit, il te dit bonjour. Le mec, il est juste attentionné, il est juste sympa, tu vois, il est toujours clean. Moi, c'est un mec qui m'a toujours fait bonne impression. Pour partager juste une petite anecdote, l'année dernière, après un rassemblement de l'équipe de France, tous les joueurs étaient partis, tout était fini pour le côté média, à part il restait Victor Wembanyama sur le terrain, qui était en train de faire son interview pour Stade 2. Et du coup, bah, il fait son truc. Et nous, on est posé avec un de mes potes, de l'analyste, dans les tribunes presse, pas très loin du terrain, pour écrire nos trucs, retranscrire nos interviews, machin. Donc Victor fait son interview, on n'essaie pas de faire trop de bruit, on ne dérange pas, machin. Et là, il finit. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? La sortie, elle est d'un côté de la salle, nous, on est de l'autre côté. Il traverse la salle, il vient nous saluer, il nous serre la main en nous souriant, il retraverse toute la salle et il sort. Il y avait juste deux jeunes qui étaient là, qui traînaient dans le palais des sports de Nanterre. Il s'en foutait complètement. Il avait vu 40 journalistes dans la journée. Il venait de faire une interview pour Stade 2. Mais juste le fait qu'il prenne le temps, qu'il ait cette attention-là de se dire, bah, avant d'aller faire mes 40 repas, mes 46 machins, je vais aller juste dire bonjour aux deux petits journalistes qui ont fait le déplacement pour venir aujourd'hui. Pour moi, ça veut tout dire de la personne qui est Victor Wembanyama. Et c'est ça que j'apprécie le plus chez lui. Et c'est un des côtés qui me fascine le plus et qui m'a poussé un petit peu à le suivre à Saint-Antonio, d'essayer de comprendre concrètement qui il est, de raconter qui il est. Pour moi, c'est tout l'enjeu, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est face à un joueur unique et à une personne unique qui vaut le coup qu'on raconte tout ce qu'il fait, même si parfois ça peut être gavant, effectivement, qu'il y ait 40 articles sur Wembanyama, il les mérite.
En fait, le vrai risque autour de tout ça, c'est effectivement le retour de bâton, si ça commence à moins bien se passer. Mais comme tu le dis, Benjamin, ce qui est vraiment intéressant, et ce qu'on découvre finalement mois après mois, hein, c'est que tu es déjà un peu le thème de l'année dernière et de sa saison en JP Elite, c'est de ouais, c'est cette espèce de maturité un peu bluffante, cette façon de ouais, très tranquille un peu de gérer tout ça, de gérer bah, les attentes qu'il y a autour de lui, mais du coup ce statut vraiment particulier de, encore une fois, d'icône déjà, en fait, c'est très bizarre. Et effectivement, on a l'impression qu'il le prend avec plus de sérénité, peut-être que certains jeunes Américains qui ont été très hypés là ces dernières années. C'est peut-être dû à sa construction psychologique d'une certaine manière, hein, aussi. Mais on sent vraiment, voilà, il y a le côté rien n'est laissé au hasard, mais il y a le côté aussi de voilà de bah, justement de prendre les choses vraiment pour ce qu'elles sont et d'aller un peu dans cette progression étape par étape dont on a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, il y a cette En tout cas, l'impression que ça donne d'un point de vue extérieur, c'est vraiment d'une bonne, comment dire, une bonne corrélation entre son état d'esprit à lui et le chemin qu'il va devoir accomplir, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on sait, enfin, on voit que voilà, il a tout le bagage et même côté un peu. Bah, pour une fois, on pourrait presque dire, oui, c'est pas le ciel de la limite, c'est encore au-dessus, parce qu'effectivement, le mec a tellement tout. Dans son sac, que tu te dis que quand effectivement le puzzle sera vraiment totalement mis en place, au bout du compte, ça peut, enfin voilà, exploser tout ce qui a été vu jusque-là. Lui, comme tu l'as vraiment très bien dit, Benjamin, à la fois, et Greg aussi d'ailleurs un peu, à la fois on a l'impression qu'il a conscience de tout ça, mais qu'il se met pas de pression démesurée par rapport à ça, ou alors en tout cas qu'il arrive à la gérer vraiment très très bien, quoi. Et c'est vrai que ce côté-là est peut-être le plus bluffant, au-delà même de tout ce qu'on peut voir sur le terrain ou que ce soit. Bien sûr, l'un découle de l'autre aussi, mais effectivement, il y a cet élément-là. Pour parler peut-être plus de jeu et de son rapport à son équipe et au roster qu'il y a autour de lui, Benjamin, toi, sur ce que tu as vu là depuis le début de saison, quels sont les gros axes sur lesquels il doit bosser en priorité, et notamment sur cette première saison là, cette saison rookie?
Bah, je pense que vraiment sur les premiers matchs, et pour reprendre un peu ce qu'a dit Greg Popovich il y a peut-être 2 jours, un truc comme ça, la priorité c'est la défense. Parce que actuellement son rôle offensif est tellement vague, il fait tellement de choses différentes sur le terrain pour un mec qui a cette taille, en fait, que on a du mal vraiment à comprendre ce qu'il va devenir. Donc pour l'instant c'est dur de dire, ah bah il doit bosser là-dessus pour devenir ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir. Là pour l'instant ce qui est clair c'est que les progrès sont d'abord défensifs. Alors Victor Wembanyama est déjà dans le, je sais pas, top 30 des meilleurs défenseurs de l'NBA. Le chiffre est super random. Ça peut être 20, ça peut être 15, ça peut être 50, je sais pas. En tout cas, il est déjà très très bon défensivement. Mais c'est vrai qu'il n'est pas encore pleinement adapté de 1 à la compétition de l'NBA, de 2 à son rôle de roamer, où vraiment il est placé souvent dans la raquette et autour de lui 4 joueurs qui vont être un peu plus agressifs sur la balle et où il va vraiment venir essentiellement en aide. Et ça, des fois, c'est un peu compliqué parce que parfois il a du retard. Il le compense par bah voilà, ses longs bras, par son timing de contre, etc. Mais il est quand même en retard, ce serait mieux qu'il ne le soit pas. Et des fois, il y a des lectures qu'il ne fait pas complètement. Il y a ça, et puis évidemment, il y a aussi le côté physique, le côté encaisser le contact. On voit qu'il le fait de plus en plus, qu'il progresse là-dedans aussi, qu'il s'y habitue. Mais juste, c'est aussi un axe de progression pour moi qui est déjà évident à l'heure actuelle. Et à mon avis, l'emphase du travail des Spurs, encore une fois, je paraphrase Greg Popovich, hein. L'emphase du travail des Spurs, c'est vraiment la défense pour l'instant avec Victor Wembanyama, parce que tout le reste, on est un peu obligé d'être en période d'observation. Aujourd'hui, Victor Wembanyama, on sait qui c'est. On sait qu'il a un potentiel pour révolutionner le basket. On sait qu'il n'y a pas de limite, entre guillemets, à son jeu. Mais du coup, comment est-ce que tu définis son rôle? Comment est-ce que tu axes sa progression? Ça, c'est compliqué. Et dans les choses qui sont évidentes, selon moi, Il y aura juste le fait, enfin, le 3 points déjà, parce que hier c'est tombé à 50%, et tout de suite on voit l'impact que ça a sur le jeu. Mais c'est vrai que Victor Wembanyama, c'est pas encore un shooter à 40%, et ce sera peut-être jamais, et heureusement pour la Ligue, parce que le mec fait 2m24. Mais
Ça devrait compliquer. Oui.
je veux dire, c'est un axe de progression constant, et c'est un des trucs sur lesquels il doit beaucoup bosser, je pense, son tir. Et la NBA, c'est quand même un système dans lequel il va pouvoir vraiment beaucoup bosser là-dessus. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'au final, c'est compliqué de dire, parce que moi, 2 jours plus tôt, je t'aurais dit que l'axe de progression, ça aurait été d'aller beaucoup plus souvent dans la raquette. Je t'aurais dit ça qu'à un échantillon de 4 matchs sur lesquels il n'est pas suffisamment allé dans la raquette pour moi. Mais là, du coup, le cinquième, eh ben, il y va à fond, et il est à 9 sur 9 au panier, donc à moins de 4 feet, donc 1,2 mètres. Il est à 9 sur 9, 18 points, sachant qu'il a aussi provoqué 4 lancers francs, il en a mis 3. Donc en gros, il met 21 points juste sous le panier face aux Suns. Donc dans ces conditions-là, tu te dis, bon, en fait, peut-être qu'il peut, hein, finalement, c'est pas si compliqué. Et bon, il y a tout ce côté-là, et dans tout ce qui englobe au-delà de l'aspect offensif, défensif, mais c'est pareil, ça, hier, il m'a totalement fait remettre en cause ça. J'ai l'impression qu'en termes de cardio, il n'est pas exactement au point. C'est un truc qu'il avait dit au Media Day, j'ai bossé sur mon endurance pendant l'été, parce qu'on sait que la NBA, c'est exigeant. Tu cours très vite d'un côté à l'autre du terrain, les joueurs qui sont autour de toi courent aussi plus vite. Il y a vraiment un rythme qui est effréné, il y a vraiment. Enfin, il faut se rendre compte juste de la rapidité de la NBA, tant dans les joueurs que dans le jeu. Et du coup, c'est vrai que c'est un coup qui est à prendre. Et pour l'instant, je trouvais que Victor Wembanyama avait un petit peu du mal avec ça. Il avait un petit peu avoué à demi-mot, il nous avait dit c'est un cardio différent, je pense qu'il y a un temps d'adaptation et qu'il y aura encore un temps d'adaptation. Pour moi, sous-entendu, je suis pas encore exactement au point niveau cardio, il va falloir attendre un petit peu. Ce qui explique aussi pourquoi Greg Popovich le sort au milieu du quatrième carton, ce qui a tendance à faire enrager les gens dans la salle et les gens qui regardent le match depuis la France. Mais c'est parce que il faut préserver Victor Wembanyama et qu'il soit frais pour finir le match. Mais du coup, pour moi, je pense que ce sera un axe d'amélioration, qu'il puisse jouer vraiment longtemps, qu'il puisse jouer vraiment à pleine puissance. Mais encore une fois, hier, il a fait 34 minutes et il s'est donné des deux côtés du terrain, il a couru en transition partout, il s'est imposé au cercle. Donc moi, à ce stade, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression que, enfin, c'est difficile de dire vraiment comment est-ce qu'on va vers le produit fini de Victor Wembanyama quand ce joueur ressemble tant à un produit fini pour la NBA, en fait. Donc à ce stade-là, moi, j'ai envie de dire, là, il y a quelques trucs que j'ai soulignés, mais juste, il faut s'asseoir dans le bateau sur la Riverwalk et laisser le truc suivre son cours et monter dans le train Victor Wembanyama. Et puis voilà quoi, asseyez-vous, détendez-vous, mettez un petit masque sur vos yeux, prenez des amandes, et puis on se pose, on voit ce qui se passe. Et on verra bien où ça nous mène, ouais.
Il y a un côté comme ça, encore une fois, de voir un peu tout ça, de se mettre en place petit à petit, parce que c'est ça aussi, c'est on attend un résultat immense, il y a beaucoup voilà, de fébrilité, comme on disait, enfin, les gens voilà, aimeraient bien que ça se fasse vite, mais de par le fait, évidemment, c'est le principe même d'une carrière révolutionnaire en NBA, ça va prendre du temps et ça va être là, petites étapes par petites étapes. Ouais, non, c'est assez intéressant tout ça. Je te remercie, Benjamin, vraiment pour tous ces éléments. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter en particulier? Puis je vais redonner la parole une dernière fois à Greg aussi. Mais est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là sur les Suns, sur les Spurs, je sais pas, un truc en particulier?
Alors déjà, mea culpa, tout à l'heure j'ai dit que les Spurs avaient gagné seulement le premier quart-temps, mais le deuxième, il est aussi en leur faveur
Oui, je
d'un
crois.
point dans le match d'hier. Donc je me corrige là-dessus. Petit astérisque, tout à l'heure on a parlé de Zach Collins. Moi je tiens à souligner que c'est un mec qui est très sous-estimé, je pense, en NBA, qui est très
Je suis
intéressant, et
d'accord avec toi.
c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc il fallait que je
Ouais,
le
moi aussi,
place.
ouais.
Et tout à l'heure Grégoire a aussi posé la question, enfin. Il a parlé du fait de mettre la responsabilité sur les épaules de quelqu'un, en fait, et sur le fait que c'était un peu collectif et tout. Moi, j'ai juste une proposition pour les fans des Suns. Je propose juste qu'on mette tout sur le dos de David Fizdale. Parce qu'il est là, profitez-en, il faut qu'il serve à quelque chose, tu vois. Donc mettez tout sur le dos de David Fizdale, et ça va bien se passer, les gars.
Ouais, c'est pas mal. Et puis c'est un bon fusible, effectivement, il peut partir,
Allez, c'est parti.
il aime bien
C'est
partir plus
parti.
vite, prendre des indemnités, tout ça, donc pourquoi pas. Ça peut être une solution.
L'agenda est lancé.
Non, mais ça, effectivement, ça montre bien, enfin, blague à part, qu'il y a vraiment une remise en question générale, hein, là, après ce début de saison qui, sans être complètement raté, est vraiment loin d'être réussi pour Phoenix. Je pense que c'est vraiment l'ensemble du coaching staff et l'ensemble du roster qui va devoir se remettre en question, se regarder un peu dans la glace et se retrousser les manches. Hein. Vraiment, tu as parlé de ça tout à l'heure, Greg, de bosser. Je pense que moi, c'est vraiment le maître mot. Là, quand tu sors de ces deux matchs-là, tu dois, voilà, quoi, tu dois te buter à l'entraînement et tu dois monter, enfin, voilà, collectivement. Et derrière que ça se traduise en match, quoi. Greg, t'avais quelque chose à ajouter?
Non, non, mis à part que oui, j'aimerais vraiment que l'équipe de Frank Vogel réponde aux promesses de Frank Vogel, celles d'une équipe qui doit être nasty, qui doit jouer dur, avec beaucoup d'intensité. Moi, c'est tout ce que je demande sur les prochains matchs de saison régulière, que ça monte en intensité. Je veux bien accepter que tout ne soit pas parfait à cause d'une alchimie encore en construction, évidemment, mais j'ai du mal en tant que fan. Et en tant qu'observateur, hein, d'imaginer qu'on puisse continuer la saison comme ça avec une intensité aussi pauvre. Voilà.
Non, mais effectivement, ça résume bien le problème. Et effectivement, on en a parlé en fait dans la preview notamment. C'est une condition sine qua non. En fait, ça ne peut pas marcher les prochaines
Exactement.
saisons si tu n'as pas cette intensité défensive. Le jeu du on va outscorer l'adversaire, on va avoir plus de possession, machin, ne fonctionne que si tu es un mort de faim en défense. Et encore une fois, c'est ce qu'on a plutôt vu avec bonheur sur les 3 premiers matchs, malgré tout. Donc, enfin voilà, encore une fois, il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Si t'es pas au bon niveau en termes d'investissement, en termes d'intensité, en termes d'effort, tu ne peux pas déployer ce que tu aimerais déployer autour de cette équipe. Donc il y a vraiment une nécessité. Hein. C'est, voilà, l'équipe ne peut pas fonctionner autrement. On n'est pas Denver, on ne peut pas se permettre de jouer tranquillou et de dire oh, de temps en temps on va être un peu plus méchant, mais en fait en général on peut juste développer notre jeu. C'est pas comme ça que ça peut passer. Ça peut pas se passer comme ça, en fait, en tout cas avec les Suns cette saison. Donc bah, on verra bien. Hein. Mais en tout cas, voilà, l'avertissement est lancé et a été très très clair là sur les deux rencontres face à San Antonio. Bah, merci à nouveau, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. Merci énormément à Benjamin, parce que bah, du coup, pour toi, c'est le matin, au moment où on enregistre, c'est ton début de journée.
J'ai pas beaucoup dormi, mais je suis très content d'être là, donc merci à vous surtout pour l'invitation, c'est le principal.
Bah, ça nous
C'est
fait
un
grave
plaisir de
plaisir.
t'avoir, Ben.
C'est ça, plaisir partagé, effectivement, on le voit. Et bah, pourquoi pas, écoute, il y aura un autre enchaînement cette fois-ci à San Antonio en fin de saison après le All-Star Break. On pourrait peut-être se donner rendez-vous à cette époque-là pour voir
Avec
un peu
plaisir.
comment tout ça a évolué, que ce soit du côté Spurs ou du côté Suns, évidemment, puisqu'il va se passer beaucoup de choses d'ici ces quelques mois. Eh bah, ben c'est super, merci à nos auditeurs, hein. Comme chaque semaine, on est trop content d'être suivis, voilà, fidèlement par nous. Voilà, nos auditeurs semaine après semaine, et on va continuer à essayer là cette saison dans Valley Hoop d'être vraiment plus régulier que la saison précédente. Donc à très bientôt, hein, pour un nouveau numéro de Valley Hoop. Au revoir messieurs, et donc à très bientôt. Simplement.
A plus, ciao. Back with the Remus, these boys are my sons like Phoenix, my city. See the shots that I took, wet like I'm booked. The Phoenix Suns select DeAndre Ayton. Sun came out, I went about to drop top.